Bien, bonjour. Merci d'avoir prié, Mathieu. On en a toujours besoin. C'est pas juste de la tradition. Pardon, je parle doucement, en plus avec le masque. Dimanche dernier, on fêtait le dimanche de Pentecôte. Et puis, on s'est revus dans la semaine avec Jean-Jacques et il m'a dit « Tu as juste mentionné vers la fin du message, comme ça, le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Et est-ce que ça ne serait pas intéressant, encore plus pour une église de l'action biblique, de réaborder ce sujet ? Parce que, comme Mathieu l'a rappelé ce matin, il y avait des super choses avec l'action biblique avant, qui, par exemple, avait pris le bon côté par rapport à l'attitude générale vis-à-vis des Juifs. Hein. Mais c'est vrai que le fondateur du mouvement a aussi écrit un livre qui s'appelait « Christianisme ou pentecôtisme », enfin un truc dans le genre, quoi. En gros, comme s'il fallait choisir entre les deux. Hein. Et je me rappelle d'une dame qui n'est plus parmi nous aujourd'hui, quand je suis arrivé ici, qui m'a accusé d'être hérétique parce que je disais que le Saint-Esprit était Dieu. c'était le Père, le Fils et la Parole, la Trinité. Voilà, donc il y a quand même, même si beaucoup d'entre vous ici ne viennent pas de cette histoire-là, mais de toute façon, c'est un sujet à aborder. Alors, avoir l'Esprit de Dieu, hein, la Bible est très claire, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Donc quand on est né de nouveau, on est devenu enfant de Dieu, que ce soit un jour marqué où on s'en rappelle ou une progression, c'est pas important, mais ça s'est fait par l'Esprit de Dieu, hein. Comme l'a dit Jean-Jacques, Jésus lui-même a dit « Personne ne peut venir à moi si je ne l'attire ». C'est un mystère, parce qu'il y a aussi le libre arbitre. Hein. Comment ça fonctionne? Je ne le sais pas. Mais c'est l'action du Saint-Esprit. Maintenant, être rempli du Saint-Esprit, c'est autre chose. Hein. Et on voit que ce n'est pas une expérience unique, déjà, comme point de départ. Lorsqu'il y a eu cette première Pentecôte, donc, qu'on a célébrée dimanche dernier, dans Acte 2, il est dit « Ils furent remplis du Saint-Esprit et puis ils sont mis à témoigner, chacun entendait dans sa propre langue. » Mais on voit que quelques chapitres plus loin, et ces chapitres plus loin, c'est quelques semaines plus tard, hein, Acte 4-8, Pierre vient de faire un miracle, par le Saint-Esprit aussi bien sûr, mais il a guéri quelqu'un et puis il est convoqué devant le tribunal religieux qui lui demande « Mais vous n'avez pas la licence pour faire les miracles hein ?» Le charme des autorités, qu'elles soient religieuses ou séculières, c'est toujours aussi bien. Et puis, là, il est dit, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Hein. Et puis, ça continue. Et finalement, ils sont de nouveau convoqués, tous les disciples, et là, on les menace. On leur dit, écoutez, si vous parlez encore de ce Jésus, vous allez vous retrouver en prison, on va vous battre, vous devez vous taire. Et Pierre leur prend la parole pour le groupe et il dit « Non, ben, écoutez, jugez vous-même, hein, est-ce qu'il faut obéir aux hommes ou à Dieu ?» Et puis, quand il rentre chez eux, entre guillemets, hein, dans l'endroit où ils se retrouvaient là, et ben, il parle de ça. Hein. On nous a menacés, on nous a demandé de ne plus parler, on nous a dit que si on parlait, on allait être battus, se retrouver en prison. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils prient pour que Dieu leur donne de l'assurance à prêcher et il lui dit ceci, chapitre 4, verset 31, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Dès le début, Jésus est clair. Il dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Donc, le Saint-Esprit est en nous, bien sûr, pour nous convaincre de péché au départ, pour nous confirmer de l'intérieur que nous sommes enfants de Dieu. C'est pour ça que nous avons cette certitude très forte au fond de nous, parce que ce n'est pas nous qui nous attestons à nous-mêmes que nous sommes enfants de Dieu, c'est l'Esprit en nous. Et l'Esprit fait aussi un travail vers ceux qui ne le connaissent pas encore ou qui sont en recherche, comme l'a souligné Jean-Jacques. Mais cette partie-là, elle est transitoire. Le but de Dieu, c'est de nous remplir de son esprit pour que nous soyons ses témoins. Et pour être témoin de quelque chose, il faut vivre quelque chose. Et c'est pour ça que je ne peux pas être un témoin de l'action du Saint-Esprit, si je vis moi-même rien de par l'Esprit. Alors, on vit tous quelque chose, hein. Mais l'apôtre Paul en fait même un commandement. Dans Éphésiens 5, 18, hein, vous connaissez ce texte, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez, contraire, remplis de l'Esprit. Et puis, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, etc. Soyez remplis de l'Esprit. C'est à la fois un impératif. Donc, s'il nous donne un ordre, c'est que, bien sûr, on ne maîtrise pas le Saint-Esprit, hein. Mais si Paul dit « Soyez remplis de l'Esprit », c'est qu'on a quelque chose à faire. Sinon, il ne le dirait pas, bien sûr, hein. Ça se ferait tout seul ou ça ne se ferait pas. Et en plus, dans la façon dont c'est écrit, on n'a pas l'équivalent en français, ça serait plus facile en anglais, hein. Soyez continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit. Parce que, vous vous rappelez, il y a quelque temps, j'ai parlé des citernes crevassées. Nous sommes des récipients qui fuient. Donc, être rempli, c'est bien, mais si on veut garder, hein, bon, déjà, même si on arrive à boucher les trous et qu'on garde, ben, au bout d'un moment, ça croupit, c'est pas bon. Mais en plus, on est crevassé. Donc, c'est pour ça que nous avons besoin d'être continuellement remplis du Saint-Esprit. Alors, honnêtement, c'est un sujet qui est. Ben, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dessus, hein, et je ne pense pas qu'il y ait une méthode ou quelque chose qui ferait qu'on peut être rempli du Saint-Esprit comme ça. Par contre, il y a des éléments très clairs dans la parole de Dieu. Qui nous donne des pistes pour vivre en étant rempli de l'Esprit. Ce que je voudrais dire déjà avant d'aborder ça, c'est nous sommes, enfin, Dieu a voulu que les croyants vivent leur vie de croyants en étant remplis du Saint-Esprit. Sachant qu'on ne peut pas être rempli du Saint-Esprit probablement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais ce n'est pas l'exception. Ça devrait être ce qu'on cherche à vivre au maximum, hein, parce que ça règle naturellement toutes les questions sur lesquelles nous dépensons souvent une énergie considérable sans résultat. Lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, le témoignage n'est plus une difficulté ou une question. C'est naturel, hein. C'est du trop-plein, ça déborde, hein. Si vous alimentez un récipient en permanence, à moins que ce soit totalement fermé, ce qui n'est pas le cas, je l'ai dit, on est tous un peu fêlés, tous un peu percés, tous un peu fissurés, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait des cascades, ça fait des ruisseaux, ça fait des. Ce que vous voulez, mais ça sort, hein. Et puis, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, dans ces moments-là, résister à la tentation n'est pas un combat. C'est simple. Ça ne nous attire pas, hein. On n'est pas toujours dans cet état-là. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, même nos faiblesses ne sont plus des faiblesses dans ce moment-là. On verra que paradoxalement, c'est parfois ou souvent nos faiblesses qui nous amènent dans le bon état d'esprit pour être rempli. Mais lorsqu'on est rempli, il n'y a plus de lutte contre le péché. Parce qu'on est rempli, il n'y a plus de place pour autre chose. Et enfin, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on résiste bien à la pression. Des problèmes comme à celle du péché, je l'ai dit. On a écouté avec Jean-Jacques un message ensemble et j'étais amusé parce que c'est la première fois que j'écoute un message où j'ai l'impression que le prédicateur a repris toutes les images que j'utilise habituellement sur un sujet, quoi. C'est parce que c'est les images classiques dans le christianisme, sûrement, hein. Mais il donne cette très belle image, il prend une petite canette, vous avez ces canettes de Perrier, par exemple, pour prendre un produit français, hein. Ces canettes en aluminium très légères. Puis il en prend une vide et une pleine. Puis vous prenez la pleine et vous pouvez appuyer dessus, ben elle résiste sans problème. Vous prenez la vide et vous faites ça, qu'elle s'écrase, hein. Lorsqu'on est rempli de l'esprit, ça rééquilibre les pressions. Le monde extérieur est lourd sur nous, hein, que ce soit par les difficultés, les épreuves de la vie, aussi par ben, le mal qui est là autour, etc. Et si nous essayons de lutter pour résister, c'est une lutte qui nous épuise et c'est une lutte charnelle et naturelle. Mais lorsque nous sommes remplis, bah, c'est facile, ça résiste, hein. Parce que ce qui est à l'intérieur rééquilibre les pressions et est plus fort que ce qui est à l'extérieur. Et puis, surtout, être rempli de l'esprit, c'est ce qu'il faut pour être connecté avec Dieu. Hein. Alors oui, Dieu ne nous abandonne jamais, même quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, il est là, il est présent. On ne va pas en enfer si on meurt, il est fidèle, ça ne change rien à qui il est. Mais c'est là qu'on peut l'expérimenter. Je ne veux pas le lire en entier, mais je vous encourage à lire le chapitre 2 de la première épître aux Corinthiens. C'est un chapitre que j'aime beaucoup. Et où il est parlé de la sagesse de Dieu qui agit par l'esprit. Et il dit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qu'il aime. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. Le travail de l'esprit ne remplace pas le travail intellectuel, mais il doit s'ajouter, sinon le travail intellectuel, quand je dis travail intellectuel, c'est étudier la Bible, la comprendre, creuser, etc., hein, sert à rien. Mais il faut le faire, parce que le Saint-Esprit, nous sommes des êtres humains dans un corps, a besoin d'un point d'appui, hein, toujours ce fameux levier, ce point d'appui pour soulever les choses. Monsieur Archimède. Non, j'ai pas juré, c'est le nom d'un philosophe grec. Et le Saint-Esprit, oui, il peut agir comme ça, sans rien, mais la plupart du temps, il ne le fait pas. Il a besoin d'un support. Et ce support, il vient de notre connaissance intellectuelle de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on doit toujours l'étudier, continuer de la méditer, d'essayer de la comprendre. Elle va être ce point sur lequel lui va s'appuyer pour faire les choses. Mais dire que savoir et connaître, ça suffit, c'est une erreur, hein, et ça serait grave, parce que Paul dit, non, quand on est venu chez vous, ce n'était pas avec la puissance des mots, de la persuasion, mais avec un témoignage de la puissance de l'esprit. Et il ne parlait pas spécialement, je ne pense pas, du fait qu'il faisait des miracles ou pas, parce que les miracles, on ne les maîtrise pas, hein. Paul guérissait des malades, mais il a laissé un de ses collaborateurs malade, ce n'est pas nous qui maîtrisons ça. Par contre, l'action de l'esprit dans les cœurs, qui, en s'appuyant sur les pensées de Dieu révélées par sa parole, va mettre en mouvement, en effervescence, en action, et va transcender la connaissance intellectuelle pour l'amener dans le spirituel, justement. Sinon, on reste à un niveau en dessous. Souvent, une image que j'aimais beaucoup, hein, c'est comme si on vous fait cadeau d'une superbe voiture. Imaginez une belle Jaguar. Moi qui n'aime pas les voitures, c'est les seules que je trouve belles. Et puis, voilà. Et vous avez cette voiture, mais vous vous déplacez en la poussant ou en la tirant. Hein. Alors, elle est belle, vous pouvez vous asseoir dedans, elle est luxueuse, elle est magnifique. On la regarde, vous pouvez la décrire, vous parler du nombre de chevaux qu'elle a, de la puissance, de ci, de ça. Puis quand il faut vous déplacer, ben vous la poussez. Hein. Ça, c'est quand un croyant s'en tient à la connaissance intellectuelle des pensées de Dieu. Ah, il connaît tout. Vous savez combien il y a de pièces dans le moteur? Je peux vous le dire. Et combien là? Et combien là? Et là, l'échappement. Moi, j'y connais rien. Donc je ne peux pas vous donner des exemples. Mais c'est bien, c'est important, parce que peut-être un jour, il faudra la réparer. Hein. Mais quand même, le but, c'est de s'asseoir dedans, et puis on tourne la clé, et puis on démarre et on roule. Hein. Voilà. Et on pourrait multiplier les illustrations. Alors, quelques pistes pour qu'est-ce que je peux faire, moi, pour être rempli de l'esprit. Ben d'abord, le point de départ, c'est savoir que ça existe et que j'en ai besoin. Les expériences sont toutes différentes. Certains d'entre nous avons été remplis de l'esprit le jour où nous avons accepté Christ. C'est assez courant, ça peut se passer. Hein. Et donc, on l'a associé à cette expérience-là. D'autres sont venus à cette... ce qu'on appelle la conversion, mais à cette conviction qu'ils sont enfants de Dieu de façon progressive. C'est souvent le cas quand on a grandi dans une famille chrétienne et qu'on a fini par adhérer nous-mêmes à la foi. Et on n'a pas forcément connu cette expérience-là. Mais on va la vivre à un autre moment, peu importe. Souvent, pour les enfants chrétiens, ça peut être dans un camp, par exemple, dans une conférence, dans un moment particulier, où, mais ça peut être tout seul dans sa chambre, ça peut, y a aucune règle, quoi. Hein. Et ça serait une erreur de penser que ce n'est pas pour tous. Ça serait une autre erreur de penser que c'est arrivé une fois et c'est bien. Et je dois vivre avec le souvenir de cette belle expérience. Non, Paul dit, soyez continuellement en train d'être remplis de l'esprit. Donc je dois savoir que ça existe, que ce n'est pas unique et que ce n'est pas exceptionnel, c'est ce que Dieu veut pour le croyant, même si on n'y accède pas tout le temps. Parce que forcément, si je pars de l'idée que ce n'est pas pour moi, si Dieu veut le donner, il donnera bien. Hein. Non, ça ne se passe pas comme ça. Oui, il veut le donner, bien sûr, mais moi, je dois faire ce que j'ai à faire, ce qui n'est pas une œuvre. Hein. En fait, dans mes images personnelles, j'aime utiliser le fait que pour être rempli de l'esprit, il faut des alignements. Hein. Parce que je suis toujours sur cette image de l'eau qui coule, par exemple, hein, dans un tuyau, hein, il y a une arrivée. Et puis, si l'autre conduite qu'il doit réceptionner, elle n'est pas alignée avec celle qui arrive, l'eau, elle coule, mais elle coule à côté. Puis nous, on doit aligner un certain nombre de choses pour pouvoir être rempli du Saint-Esprit. Premièrement, on doit aligner nos pensées avec les pensées de Dieu. Et ça, justement, c'est la partie qu'on peut faire. Hein, parce que si je ne connais pas la parole de Dieu, et puis je vis juste sur Dieu, il est cool, il a créé l'univers, les oiseaux, les papillons, et quand je vois un coucher de soleil, c'est magnifique, ça me bouleverse, ce qui est super, hein, je pense à ces choses-là aussi. Mais ça ne suffit pas. Ça, c'est la révélation générale. J'ai besoin de savoir précisément ce que Dieu pense sur des choses précises dans ma vie. Et Dieu a décidé que certaines choses fonctionnaient d'une certaine façon. Pour la vie, pour toutes choses. Donc déjà, je dois aligner mes pensées sur celles de Dieu. Et on vit dans un monde post-chrétien où ce n'est pas naturel. Une des participantes à notre groupe Alpha Life nous a dit... Elle a 28 ans. Jusqu'à il y a 2 ans, je ne savais pas qui était Jésus, le personnage historique. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Né et grandi en Suisse. Hein. Donc voilà. Et c'est de plus en plus courant. On est dans un monde analphabète en ce qui concerne la connaissance biblique. Donc on doit avoir... aligner nos pensées avec les pensées de Dieu. Mais pour nous qui sommes croyants, ce matin depuis longtemps déjà... pour tous, c'est plus qu'une connaissance théorique. C'est un acte de volonté quand je considère ma vie, les directions, mes valeurs, etc., d'aligner mes pensées sur celles de Dieu. C'est-à-dire que ce qui me sert de point de repère, c'est pas mon ressenti, mon avis, mais c'est ses pensées. Hein. Deuxièmement, on doit aligner nos actes avec la pensée de Dieu. Parce que c'est vrai que c'est facile d'avoir des idées. Hein. C'est super important que les croyants se retrouvent. Mais moi, je ne participe à aucun rassemblement avec des croyants. Hein. Mais je pense que c'est important. Voilà. C'est super important de lire la Bible. Mais moi, je ne la lis pas, mais je sais que c'est important. Donc, forcément, ce décalage-là... Et c'est, encore une fois, ce n'est pas pour avoir des mérites. Hein. C'est juste que si on n'aligne pas les différents morceaux de tuyaux, l'eau ne passe pas. Dieu nous aime autant, on ne va pas en enfer. Hein. Il ne va pas nous arriver des malheurs, genre comme une punition à cause de ça. Simplement, on se prive d'être rempli de lui. Et quand on n'est pas rempli de lui, la vie chrétienne, elle est pénible. Elle est fatigante. Parce qu'on a tous les inconvénients sans les avantages. Hein. Et donc, au bout d'un moment... Soit on devient hypocrite, on fait semblant, mais on trouve sa vie ailleurs. Soit on laisse tomber parce qu'on est honnête, on se dit « j'y arrive pas ». Ensuite, et c'est peut-être le point le plus important, on doit aligner notre volonté avec la volonté de Dieu. Et c'est là souvent où ça coince. Parce que les pensées de Dieu, ok, on va les apprendre. Hein. Les actes... C'est à nous décider, oui, c'est une question de volonté aussi, mais enfin, on a des habitudes, on va faire des choses qui sont correctes. Mais aligner notre volonté intérieurement avec celle de Dieu, c'est plus compliqué parce que là, on sort des généralités et c'est le fait de signer à Dieu une page blanche chaque jour de nos vies, pour la journée, mais aussi pour notre futur, pour... qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Au lieu de « qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?», je vais devenir un disciple du Christ. Une des caractéristiques, quand Jésus était sur terre, Lorsque Jésus rencontrait quelqu'un, en général, ils étaient bouleversés, alors quelques-uns le rejetaient, mais ceux qui l'acceptaient, ils avaient des questions, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire? Et la réponse était toujours, avec des termes différents, t'occupe pas, suis-moi, mais on va où? C'est pas grave, suis-moi. Oui, mais j'aimerais bien faire des plans, savoir quand ça va que... Suis-moi. Ah, c'est dans ce sens-là que je dis aligner notre volonté. C'est-à-dire qu'on on fait des projets pour nos vies, il n'y a rien de mal avec ça. Hein. Mais en général, on fait nos projets, et après, ce qu'on appelle la prière, c'est convaincre Dieu de signer nos projets. Parce qu'on pense qu'ils sont corrects, bien sûr, on ne demande pas à Dieu de bénir le fait qu'on aille attaquer une banque et puis agresser les personnes âgées dans la rue pour leur piquer leur sac. Mais juste dans des bonnes choses, hein, parce que ben, on veut tous la même chose, être en bonne santé, avoir un bon travail, une bonne réputation, un bel endroit pour habiter, vivre tranquille, être heureux. Si on a une famille, qu'elle aille bien, que nos enfants aillent bien. Et puis, ben, on va s'engager dans quelque chose pour Dieu. Je vais chanter dans la chorale, ou je vais faire la sono, ou je vais faire une prédication. Et puis voilà, ça c'est mon plan de vie. Et je dis à Dieu, bénis-le. Et Dieu va essayer de nous bénir là-dedans, il va le faire, etc. C'est pas, hein. Mais ce n'est pas exactement comme ça que ça marche. Dieu nous dit, tu veux être mon disciple? Laisse tout et suis-moi. Les exigences de Dieu n'ont pas changé depuis que Jésus est parti au ciel. Quand cet homme qui était riche vient voir Jésus et qui lui dit qu'est-ce qu'il faut faire de hein, et puis qui lui dit ben, vends ce que tu as et suis-moi. Et puis il dit, il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Et nous pouvons être pauvres, ben, bon, en Suisse on l'est moins qu'ailleurs, mais on peut être pauvre et quand même pas vouloir donner à Dieu une page blanche. Donc ce n'est pas une question de ce qu'on a matériellement ou pas. C'est une question d'attitude de cœur. Seigneur, ben, je suis d'accord pour te suivre sur le chemin que tu vas me tracer. Puis je ne sais pas où il va. Mais moi, ce que je veux, c'est te faire confiance à toi. Et toi, tu vas m'amener ben, peut-être là où je ne voulais pas, et peut-être là où je veux, mais peut-être là où je ne voulais pas, et c'est mieux que ce que moi je voulais, ou peut-être là où je ne voulais pas, et c'est bien pire que ce que moi je voulais. J'en sais rien. Mais moi, je vais te suivre et je ne sais pas où tu vas. Mais je sais où toi tu es et je veux rester avec toi. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on ne peut plus faire de plan. On ne sait pas trop ce qui se passe. On ne sait pas quoi. Puis ben, on voit les gens autour de nous qui vivent raisonnablement. Ils savent, ils ont fait leur plan à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Ils ont posé les choses. Et puis nous, on est là, ben oui. Alors il y a des choses que je sais, je veux rester honnête, je veux rester fidèle à ma femme, je veux bien élever mes enfants, etc. Ça, ça ne change pas, mais je ne sais pas. Je suis en route et je suis quelqu'un qui est imprévisible et la personne que je suis, du verbe suivre, hein, je ne suis pas en train de faire un dédoublement de personnalité, la personne que je veux suivre, que j'ai choisi de suivre, quand il était sur Terre, il n'avait pas de maison et puis il disait... Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, Matthieu nous l'a rappelé. Mais moi, je n'ai même pas un endroit où reposer ma tête. Bon, même Jésus exagérait un peu. Il avait Béthanie. voilà. Ça, c'est pour les gens qui disent que j'exagère toujours. Même Jésus le faisait un peu. Voilà. Donc oui, il y aura ce qu'il faut. Hein. Mais c'est une des choses qui met le plus d'obstacles au fait qu'on soit rempli de l'esprit. C'est que... Bah, on tient notre, il y a une arrivée avec de l'eau, puis nous on tient notre conduite à un mètre de là, et puis on dit fais un miracle, remplis là, fais un miracle, remplis là, fais un miracle, remplis là. Puis Dieu dit bah, tu sais quoi, tu veux de l'eau, aligne-toi. C'est simple, elle est là, l'eau elle coule tout le temps, il y a le débit lié, la pression liée, il y a tout ce qu'il faut. Non mais vas-y, ah, fais-le. Pas la peine de crier, je suis pas sourd, j'entends, je vois tout, je sais tout, tu veux être rempli, ben, aligne dessus quoi. Et là, ça coule, ça sort. Ah, c'est magnifique. Mais en général, qu'est-ce qu'on fait hein? En tout cas, ce que je fais, j'apprécie un moment et puis dès que je me sens bien, je ressors le tuyau pour essayer de diriger l'eau là où je veux moi quoi. Et puis, au bout d'un moment, je me dis zut, oui, j'ai bien mon tuyau, mais il est vide. Dieu se laisse pas impressionner, manipuler. Il va pas changer ses plans parce que tout d'un coup, j'ai une meilleure idée que lui et je l'ai convaincu. Non, c'est de la blague. Donc voilà. Et puis, au-delà de notre volonté, j'allais dire notre volonté habituelle, hein, celle qu'on utilise ou pas, ou qu'on a plus ou moins de mal à utiliser, il existe la même chose dans le domaine de l'esprit. Parce que vous savez que nous sommes composés d'un corps, ça se voit, hein, plus ou moins visible pour certains, d'une âme et de l'esprit. Le corps, c'est simple. L'âme, elle comprend la volonté, l'intelligence, les émotions. Et on peut vivre notre christianisme dans ces deux dimensions-là. Ben, notre corps, il se déplace, il va au culte, il va prier, il va faire les courses, il va travailler. Et puis avec notre âme, on ressent des choses, des émotions. Notre intelligence, on apprend des choses. Et ça s'arrête là. Mais il y a l'esprit. Et notre esprit, justement, ce qui fait la nouvelle naissance, c'est que notre esprit, qui était déconnecté de l'esprit de Dieu, est reconnecté. Et c'est par lui que ça passe. Et c'est là où c'est beaucoup plus difficile, parce que la volonté dans le domaine naturel, on sait ce que c'est. Ben, il faut se discipliner, on le fait pas, il faut le faire, on le fait, on le fait pas. Hein, les émotions, on est tous différents à ce sujet-là. L'intellect, on a des capacités différentes, mais pour comprendre le minimum, on est à peu près tous équipés. Mais quand on arrive au domaine de l'esprit, c'est compliqué, parce que justement, on n'a pas les mots précis pour en parler. C'est dans un domaine qui est à la frontière de la conscience, justement, par rapport à l'âme. Hein. Mais là aussi, dans notre esprit, il y a une volonté. Surtout une volonté qui peut dire non. Et c'est là souvent que tout se joue avec le fait d'être rempli de l'esprit, parce que pour être rempli de l'esprit, il faut que bah, les précédents points soient alignés, hein, ma volonté, mes actes, mon désir, ma connaissance, etc. Et puis il faut en plus que mon esprit soit tranquille et consente à être connecté à l'Esprit de Dieu. Et en fait, c'est là que toute l'inconnu reste, hein, que ça reste un mystère, puisque c'est pas quelque chose de, c'est pas une science exacte, on maîtrise pas. Mais c'est l'équivalent d'une pensée très à la mode aujourd'hui dans le domaine de l'âme, qui est le lâcher prise. On enseigne ça partout. Il faut lâcher prise. Et lâcher prise au niveau de l'âme, c'est une chose qui est importante. Hein, voilà, on va arrêter d'essayer de tout contrôler. Dans notre, voilà. Mais on doit vivre ça au niveau spirituel. Et c'est pour ça, je disais au début, et j'arrive au bout, hein, je termine avec, c'est que souvent, paradoxalement, c'est quand je suis très faible que je vais, suite à ça, être rempli de l'esprit. Parce que quand je suis très faible, mon esprit n'est pas en train de vouloir faire quelque chose pour Dieu. Je suis juste... hein. Et en même temps, je suis consciemment consentant en disant à Dieu, bah, écoute, voilà, fais-le. Voilà. C'est quelque chose que je vous l'ai dit souvent, mais je le redis parce que je le vis régulièrement. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime l'activité professionnelle que j'ai. C'est plus qu'une activité professionnelle. Mais c'est parce que ça me met régulièrement dans cette situation. On est samedi soir, ouais, je peux étudier la Bible, ça je sais faire, il n'y a pas de souci. Parler sur un texte biblique, je peux faire, il n'y a pas de souci, comme je pourrais le faire sur n'importe quel texte. Je sais le faire, j'ai appris, j'ai des facilités, il n'y a pas de souci. Sauf que... c'est pas ça, partager la pensée de Dieu. C'est plus que ça. Et là, je dirais 99% des fois, le dimanche matin, oui, je sais que je peux avoir des choses à dire, je ne suis pas inquiet avec ça. En plus, je suis entouré de gens bienveillants qui ne m'en veulent pas. C'est pas que c'est compliqué. Mais il y a un défi terrible, c'est que moi, je suis vide. Et je n'ai pas envie de dire des platitudes sur la Bible, d'expliquer des choses que tout le monde sait déjà. Et ça ne sert à rien. Et là, je suis devant Dieu, et c'est fois après fois la lutte de Jacob qui est là et qui dit à Dieu, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et c'est une lutte terrible parce que c'est une lutte dans l'impuissance. On ne peut pas le fabriquer, on ne maîtrise rien. Et justement, il faut un moment lâcher prise et dire à Dieu, bah, écoute... moi, je me suis préparé intellectuellement, etc. J'ai mes notes, j'ai tout, mais maintenant, si tu ne me remplis pas, ben voilà, je serai ridicule. Il n'y aura pas de contenu, ça ne va pas le faire, mais je ne peux pas non plus le fabriquer. Ce n'est pas du chantage, hein, c'est juste qu'à un moment, ben, on se laisse tomber dans ses bras et puis on vient. Et bah, la plupart du temps, on est rempli. Et c'est pour ça que je vais toujours mieux après qu'avant. C'est très égoïste, et peut-être pour vous, c'était pas efficace, mais pour moi, ça l'est. Et c'est pas juste le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien, ou il y a des gens qui m'ont écouté, c'est super. Non, je dirais, à l'âge que j'ai, je peux faire la différence entre ça et le reste. Hein. C'est juste que, encore une fois, bah, Dieu est fidèle, et puis il dit, tu vois, juste, t'inquiète, je suis là. Toi, fais ta part. Et puis, laisse-moi faire la mienne et je ferai ce que je veux. Oui, mais ça va être comment, ça? Toi, suis-moi. Hein. Toujours, on en revient là. Et moi, je sais que c'est pour ça que j'aime ça, parce que sinon, ma vie est faite pour éviter ce genre de situation. Parce que je contrôle tout, je maîtrise tout. On vient en Suisse quand même. Depuis que je suis ici, merci, j'ai appris à faire un budget, à faire des provisions, à préparer, je paie mes factures, j'ai des assurances. Il arrive toujours des catastrophes, mais voilà, on maîtrise un petit peu. Hein. Bon, si vous aimez l'imprévu, je vous encourage à rénover les maisons. Là, ça en rajoute toujours un peu. Hein. Mais ça n'aide pas forcément à être rempli du Saint-Esprit. Voilà. Donc, c'est important. Et en fait, je dirais que j'avais noté cette phrase juste avant. C'est dans nos moments de faiblesse, en transparence, qu'on va être rempli de l'Esprit. Parce que des fois, on est faible parce que, justement, on est dans le non-consentement à Dieu. Hein. Je sais que Dieu voudrait que je fasse ça, puis moi, j'ai envie de faire autre chose. Je ne sais pas si ça vous arrive jamais. Moi, ça m'arrive. Et dans ces moments-là, je fais ce que j'ai envie de faire, hein, et spirituellement, je suis faible. Mais forcément, ce n'est pas dans ces moments-là que je serai rempli du Saint-Esprit. Puis ben voilà, c'est des situations qui arrivent. Il ne faudrait pas, mais elles arrivent. Par contre, il y a des moments où j'aimerais tellement être utile dans les mains de Dieu. J'aimerais tellement avoir quelque chose de vrai, de fort à communiquer, à dire, à partager. Je sais que je ne suis pas parfait, mais je ne vis pas spécialement dans un péché particulier à ce moment-là. Mais je suis vide. Et là, c'est un moment de faiblesse, hein, mais en transparence devant Dieu. Où je me tiens dans sa lumière, je dis, oui, bah, écoute, j'ai pas besoin de t'expliquer, tu sais qui je suis, tu connais mes faiblesses. Mais... Bah, si tu as choisi de m'utiliser, moi, c'est moi, tu le sais. T'es pas surpris, hein. Et là, dans ces moments-là, souvent, on va être rempli du Saint-Esprit. Et la dernière chose que j'ajouterai, en tout cas dans mon expérience, c'est que, au-delà de tout ce que j'ai dit, ce qui fait que quasi systématiquement, je suis rempli de l'Esprit, c'est justement quand j'ai l'opportunité de partager la vie de Dieu à quelqu'un d'autre. Hein. Chacun à sa façon, chacun avec ses dons, chacun ses pas. Je ne parle pas ici de la prédication ou d'être évangéliste, hein, mais d'avoir la possibilité. Parce que c'est pour ça que le Saint-Esprit a été donné. Et je pense que là, il y a une espèce de mécanique spirituelle qui fait que quand on est dans une situation où on doit témoigner à quelqu'un, tout ce que j'ai dit avant est faux et les tuyaux, ils s'alignent tout seuls. Hein, y a un petit mécanisme qui vient là, et puis se mettre en place, et puis ça coule sur la personne. Puis j'ai fini, ça reprend sa place, et là j'aurai moi mon travail à faire. Hein. Parce que ça, c'est pas l'exception, mais c'est le but, c'est que l'eau arrive à la plante qui a soif. Et là, Dieu va pas se limiter au fait que moi j'ai pas fait ce qu'il fallait, que je suis pas bien, que si, que ça. Il met les choses, et puis il force un petit peu le truc. Et bien sûr, moi je veux témoigner, mais. Ça passe. Hein. Mais en même temps, on en bénéficie, parce que c'est l'avantage d'être justement le conduit par lequel la vie de Dieu passe. Hein. Ce n'était pas pour nous directement, mais c'est passé par nous. Et on en bénéficie aussi. Hein. Et c'est vrai que dans ces parcours alpha, ben, je suis sûr que Laurent, qui discrètement n'a pas voulu témoigner, mais a donné un petit bout de témoignage à table, et puis il y avait une personne en face qui avait les larmes aux yeux en l'écoutant, puis il disait, je ne peux pas parler parce que ce que tu dis, ça me touche tellement, et puis bah, nous, on était touchés aussi parce qu'on vivait ce moment-là, on était à côté du tuyau, on avait aussi les éclaboussures, mais je suis certain que Laurent, dans ce moment-là, était aussi béni. Et puis ça, c'est aussi quelque chose qui devrait nous encourager à considérer la beauté du témoignage, de l'action de Dieu dans nos vies, parce que en plus on en est bénéficiaire. Hein. Et ça, c'est la façon de travailler de Dieu, quoi. De faire du bien en faisant du bien, et en faisant du bien, et aussi en faisant du bien. Hein. Parce qu'il ne fait jamais rien d'autre. Alors Seigneur, on te prie que Ouais, derrière tous ces mots, comme je l'ai dit, toi, tu viennes dans la réalité remplir nos cœurs. Nous donner à chacun les images nécessaires, la compréhension, découvrir comment ça fonctionne. Mais surtout qu'au-delà d'en parler, nous puissions faire ce qui dépend de nous et puis nous abandonner à toi pour que toi, tu fasses ce que tu sais faire, ce que tu veux faire, ce que tu fais tellement bien. Nous remplir et à travers nous répandre ta bénédiction. Tu as dit à Abraham qu'il serait une bénédiction pour toute la terre et nous sommes ses enfants. Tu as aussi prié pour nous et nous voulons apprendre à être tes disciples, à te suivre, à ne pas te demander de signer nos plans, mais à juste mettre nos pas dans les tiens et à marcher avec toi. Alors merci de nous remplir, de remplir ce que nous rencontrons autour de nous et puis de nous conduire et que ce soit quelque chose de concret, que dans cette semaine, dans ces jours qui viennent, dans cette journée, on puisse les uns et les autres se dire « Waouh, j'ai vécu ce moment rempli de l'Esprit de Dieu et c'était magnifique et je veux le vivre encore et encore. » Pour qu'on puisse nous aussi dire que nous avons goûté combien tu es bon, Seigneur, au-delà de nos connaissances, au-delà de notre intellect, que notre esprit soit vraiment connecté à ton esprit et que nous soyons remplis de toi. Amen.